Voici à quelle occasion les Éoliens perdirent Smyrne. Des Colophoniens, ayant eu du désavantage d'une sédition, avaient été obligés de s'expatrier. Les habitants de Smyrne leur donnèrent un asile parmi eux. Quelque temps après, ces fugitifs ayant observé que les Smyrnéens célébraient hors de leur ville une fête en l'honneur de Bacchus, ils en fermèrent les portes et s'en emparèrent. Les Éoliens vinrent tous au secours. Mais enfin, il fut arrêté d'un commun accord qu'ils laisseraient les Ioniens en possession de la ville et que ceux-ci leur rendraient tous leurs effets mobiliers. Les Smyrnéens ayant accepté cette condition, on les distribua dans les 11 autres villes éoliennes qui leur accordèrent le droit de cité. Telles sont les villes que les Éoliens possèdent actuellement en terre ferme, sans y compter celles qu'ils ont au mont Ida, parce qu'elles ne font point corps avec elles. Ils ont aussi 5 villes dans l'île de Lesbos. Quant à la 6e, nommée Arisba, les Mythménéens en ont réduit les habitants en esclavage, quoiqu'il leur fût uni par les liens du sang. Ils ont aussi une ville dans l'île de Ténédos et une autre dans les îles qu'on appelle Hécatonèse. Les Lesbiens et les Ténédiens n'avaient alors rien à craindre, non plus que ceux d'entre les Ioniens qui habitaient dans les îles. Mais les autres villes résolurent dans leur conseil de suivre les Ioniens partout où ils voudraient les mener. Les ambassadeurs des Ioniens et des Éoliens s'étant rendus à Sparte en diligence, choisirent, aussitôt après leur arrivée, un phocéen, nommé Pithermus, pour porter la parole au nom de tous les autres. Pithermus se revêtit d'une robe de pourpre afin que, sur cette nouvelle, les Spartiates se trouvassent à l'assemblée en plus grand nombre. S'étant avancé au milieu d'eux, il les exhorta par un long discours à prendre leur défense. Mais les Lacédémoniens, sans aucun égard pour leur demande, résolurent entre eux de ne leur accorder aucun secours. Les Ioniens se retirèrent. Quoique les Lacédémoniens eussent rejeté leur demande, ils ne laissèrent pas de faire partir, sur un vaisseau à 50 rames, des gens qui, à ce qu'il me semble, devaient observer l'état où se trouvaient les affaires de Cyrus et de Lyonie. Lorsque ce vaisseau fut arrivé à Phocée, ses députés envoyèrent à Sardes Lacrinès, le plus considérable d'entre eux, pour faire part à Cyrus du décret des Lacédémoniens, qui portait qu'il se gardât bien de faire tort à aucune ville de la Grèce, qu'autrement, Sparte ne le souffrirait pas. Lacrinès, ayant exécuté ses ordres, on dit que Cyrus demanda aux Grecs qui étaient présents quelle sorte d'hommes c'étaient que les Lacédémoniens et quelles étaient leurs forces pour oser lui faire de pareilles défenses. Sur la réponse qu'ils lui firent, il parla ainsi au héros des Spartiates. Je n'ai jamais redouté cette espèce de gens qui ont au milieu de leur ville une place où ils s'assemblent pour se tromper les uns les autres par des serments réciproques. Si les dieux me conservent la santé, ils auront plus sujet de s'entretenir de leur malheur que de ceux des Ioniens. Cyrus lança ces paroles menaçantes contre tous les Grecs, parce qu'ils ont dans leur ville des places où marcher, où l'on vend et où l'on achète, et que les Perses n'ont pas coutume d'acheter ni de vendre assis dans des places, et qu'on ne voit point chez eux de marché. Ce prince donna ensuite le gouvernement de Sardes à un Perse nommé Tabalus, et, ayant chargé Pactias, Lydien, de transporter en Perse les trésors de Crésus et les autres Lydiens, il retourna à Acbatane et emmena Crésus avec lui, ne faisant point assez le cas des Ioniens pour aller d'abord contre eux. Babylone, les Bactriens, les Sas et les Égyptiens étaient autant d'obstacles à ses desseins. Il résolut de marcher en personne contre ses peuples et d'envoyer un autre général contre les Ioniens. Cyrus ne fut pas plutôt parti de Sardes que Pactias fit soulever les Lydiens contre ce prince et contre Tabalus. Comme il avait entre les mains toutes les richesses de cette ville, il descendit sur le bord de la mer, prit des troupes à sa solde, engagea les habitants de la côte à s'armer en sa faveur et, marchant contre Sardes, il assiégea Tabalus qui se referma dans la citadelle. Sur cette nouvelle que Cyrus a pris en chemin, ce prince dit à Crésus « Quand verrai-je donc la fin de ces troubles? Les Lydiens ne cesseront point, suivant toutes les apparences, de me susciter des affaires et de s'en faire à eux-mêmes. Que sais-je s'il ne se serait pas plus avantageux de les réduire en servitude? J'en agis, du moins à ce qu'il me semble, comme quelqu'un qui aurait épargné les enfants de celui qui l'aurait fait mourir. Vous étiez pour les Lydiens quelque chose de plus qu'un père, je vous emmène prisonnier. Je leur ai remis leur ville, et je m'étonne ensuite qu'ils se révoltent. » Ce discours exprimait la manière de penser de ce prince. Aussi Crésus, qui craignait qu'il ne détruisît entièrement la ville de Sardes, et qu'il n'en transplantât ailleurs les habitants, reprit la parole. « Ce que vous venez de dire, Seigneur, est spécieux, mais ne vous abandonnez pas entièrement au mouvement de votre colère, et ne détruisez point une ville ancienne, qui n'est coupable ni des troubles précédents, ni de ceux qui arrivent aujourd'hui. J'ai été la cause des premiers et j'en porte la peine. Pactias a offensé celui à qui vous avez confié le gouvernement de Sardes, qu'il en soit puni. Pardonnez aux Lydiens, mais, de crainte qu'à l'avenir ils ne se soulèvent et qu'ils ne se rendent redoutables, Envoyez-leur défendre d'avoir des armes chez eux, et ordonnez-leur de porter des tuniques sous leurs manteaux, de chausser des brodequins, de faire apprendre à leurs enfants à jouer de la sitar, à chanter, et les arts propres à les rendre efféminés. Par ce moyen, Seigneur, vous verrez bientôt les hommes changer en femmes, et il n'y aura plus à craindre de révolte de leur part. » Crésus lui donna ce conseil, qu'il croyait plus avantageux pour les Lydiens que d'être vendus comme de vils esclaves. Il sentait que, à moins de lui alléguer de bonnes raisons, il ne réussirait pas à le faire changer de résolution. Et d'ailleurs, il appréhendait que si les Lydiens échappaient au danger présent, ils ne se soulevassent dans la suite contre les Perses et n'attirassent sur eux qu'une ruine totale. Ce conseil causa beaucoup de joie à Cyrus, qui, étant revenu de sa colère, témoigna à Crésus qu'il le suivrait. En même temps, il manda un mède nommé Mazarès, lui ordonna de déclarer aux Lydiens l'avis que Crésus lui avait suggéré, et de plus, il lui commanda de réduire en servitude tous ceux qui s'étaient ligués avec eux pour assiéger Sardes, mais surtout de lui mener Pactias vivant. Ses ordres donnés en chemin, il continua sa route vers la Perse. Pactias, apprenant que l'armée qui marchait contre lui approchait de Sardes, prit l'épouvante et se sauva à Cime. Cependant, Mazarès arriva à Sardes avec une très petite partie de l'armée de Cyrus. Mais n'y ayant pas trouvé Pactias, il fit d'abord exécuter les ordres du roi. Les Lydiens se soumirent et changèrent leur ancienne manière de vivre. Il envoya ensuite à Cime sommer les habitants de lui livrer Pactias. Il fut résolu, dans l'assemblée des Siméens, qu'on enverrait consulter l'oracle des Branchites sur le parti qu'il fallait prendre. Car il y avait là un ancien oracle auquel les Ioniens et les Éoliens avaient tous coutume de recourir. Ce lieu est dans le territoire de Milet, au-dessus du port de Panorme. Les Siméens, ayant envoyé des députés aux Branchides, demandèrent à l'oracle de quelle manière ils devaient se conduire à l'égard de Pactias pour se rendre agréable aux dieux. L'oracle répondit qu'il fallait le livrer aux Perses. Sur le rapport des députés, les Siméens se disposèrent à rendre Pactias. Mais, quoique le peuple se mit en devoir de le faire, Aristodicus, fils d'Héraclide, homme de distinction parmi les citoyens de Cime, s'opposa à cette résolution et empêcha qu'on ne la suivît, jusqu'à ce qu'on eût fait au sujet de Pactias une seconde députation dans laquelle il fut admis, soit qu'il se défiât de l'oracle, soit qu'il soupçonna d'infidélité le rapport des députés. Les députés étant arrivés aux Branchides, Aristodicus, portant la parole pour eux, consulta le dieu en ces termes. « Grand dieu, le Lydien Pactias est venu chercher un asile parmi nous pour éviter la mort dont le menacent les Perses. Il le redemande et nous ordonne de le remettre entre leurs mains. Mais, quoique nous redoutions leur puissance, nous n'avons pas osé jusqu'ici leur livrer ce suppliant que nous n'ayons appris de vous avec certitude ce que nous devons faire. » Le dieu lui fit la même réponse et lui commanda de rendre Pactias aux Perses. Sur cela, Aristodicus alla de dessein prémédité autour du temple et enleva les moineaux et toutes les autres espèces d'oiseaux qui y avaient fait leur nid. On raconte que, tandis qu'il exécutait son dessein, il sortit du sanctuaire une voix qui s'adressait à lui et lui disait « Oh, le plus scélérat de tous les hommes, n'as-tu bien la hardiesse d'arracher de mon temple mes suppliants ?» Et qu'Aristodicus, sans se déconcerter, lui répondit « Quoi, grand Dieu, vous secourez vous-même vos suppliants et vous ordonnez aux Siméens de livrer le leur ?»« Oui, je le veux, » reprit la même voix. « Et c'est afin que, ayant commis une impiété, vous impérissiez plus tôt et que vous ne veniez plus consulter l'oracle pour savoir si vous devez livrer des suppliants. » Sur le rapport des députés, les Siméens envoyèrent Pactias à Mytilène, ne voulant ni s'exposer en le livrant, ni se faire assiéger en continuant de lui donner un asile. Mazarès, ayant fait redemander Pactias aux Mytiléniens, ils se disposaient à les lui remettre moyennant une certaine récompense. Ce que je n'ose cependant assurer parce que la convention n'eut pas lieu. Les Siméens ayant eu connaissance des desseins des Mytiléniens, envoyèrent à Lesbos un vaisseau qui transporta Pactias à Chios. Les habitants de cette île l'arrachèrent du temple de Minerve Pouliokos et le livrèrent à Mazarès, à condition qu'on leur donnerait l'Atarnée, pays de la Mysie vis-à-vis de Lesbos. Lorsque les Perses eurent Pactias en leur puissance, ils le gardèrent étroitement, à dessein de le présenter à Cyrus. Depuis cet événement, il se passa beaucoup de temps sans que les habitants de Chios osassent, dans les sacrifices, répandre sur la tête de la victime de l'orge d'Atarnée, ni offrir à aucun dieu des gâteaux faits avec de la farine de son canton, et on excluait des temples tout ce qui en provenait. Les habitants de Chios n'eurent pas plutôt livré Pactias que Mazarès marcha contre eux qui s'étaient joints à ce rebelle pour assiéger Tabélus. Il réduisit les Priéniens en servitude fit une incursion dans la plaine du Méandre et permit à ses soldats de tout piller. Il traita de même la Magnésie, après quoi, étant tombé malade, il mourut. Arpage lui succéda dans le commandement de l'armée. Il était maître de nation aussi bien que Mazarès. Et c'est celui à qui Astyage avait donné un repas abominable et qui avait aidé Cyrus à s'emparer du trône de Médie. Dès que Cyrus fut nommé général, il passa en Ionie. Et ayant forcé les habitants à se renfermer dans les villes, il s'en rendit ensuite maître par le moyen de cavaliers ou terrasses qu'il fit élever près des murs. Phocée fut la première ville d'Ionie qu'il attaqua de la sorte. Les Phocéens sont les premiers chez les Grecs qui aient entrepris de longs voyages sur mer et qui aient fait connaître la mer Adriatique, la Tyrrhénie, Libérie et Tarsésus. Ils ne se servaient point de vaisseaux ronds, mais de vaisseaux à 50 rames. Étant arrivés à Tarsésus, ils se rendirent agréables à Argentonius, roi des Tarsétiens, dont le règne fut de 80 ans et qui en vécut en tout 120. Les Phocéens surent tellement se faire aimer de ce prince qu'il voulut d'abord les porter à quitter l'Ionie pour venir s'établir dans l'endroit de son pays qui leur plairait le plus. Mais, n'ayant pu les y engager, et ayant dans la suite appris d'eux que les forces de Crésus allaient toujours en augmentant, il leur donna une somme d'argent pour entourer leur ville de murailles. Cette somme devait être considérable, puisque l'enceinte de leur mur est d'une vaste étendue, toute de grandes pierres jointes avec art. C'est ainsi que le mur des Phocéens fut bâti. Arpage n'eut pas plutôt approché de la place qu'il en forma le siège, faisant dire en même temps aux Phocéens qu'il serait content s'il voulait seulement abattre une tour de la ville et consacrer une maison. Comme ils ne pouvaient souffrir l'esclavage, ils demandèrent un jour pour délibérer sur sa proposition, promettant après cela de lui faire réponse. Ils le prièrent aussi de retirer ses troupes de devant leurs murailles pendant qu'on serait au conseil. Arpage répondit que, quoiqu'il n'ignorât pas leur projet, il ne laissait pas cependant de leur permettre de délibérer. Pendant qu'Arpage retirait ses troupes de devant la ville, les Phocéens lancèrent leurs vaisseaux en mer, y mirent leurs femmes, leurs enfants et leurs meubles, et de plus les statues et les offrandes qui se trouvèrent dans les temples, excepté les peintures et les statues de bronze et de pierre. Lorsqu'ils eurent porté tous leurs effets à bord de ces vaisseaux, ils s'embarquèrent et firent voile à Chios. Les Perses, ayant trouvé la ville abandonnée, s'en emparèrent. Les Phocéens demandèrent à acheter des îles Eunus, mais voyant que les habitants de Chios ne voulaient pas les leur vendre, dans la crainte qu'ils n'y attirassent le commerce et que leur île n'en fût exclue, ils mirent à la voile pour se rendre en Cime, où, 20 ans auparavant, ils avaient bâti la ville d'Attalie pour obéir à un oracle. D'ailleurs, Argentonius était mort dans cet intervalle. Ayant donc mis à la voile pour s'y rendre, ils allèrent d'abord à Phocée, et égorgèrent la garnison qu'Arpage y avait laissée. Faisant ensuite les plus terribles imprécations contre ceux qui se sépareraient de la flotte, ils jetèrent dans la mer une masse de fer ardente et firent serment de ne retourner jamais à Phocée que cette masse ne revint sur l'eau. Tandis qu'ils étaient en route pour aller en Cirne, plus de la moitié touchés de compassion et regrettant leur patrie et leurs anciennes demeures, violèrent leur serment et retournèrent à Phocée. Les autres, plus religieux, partirent des îles Onus et continuèrent la route. Lorsqu'ils furent arrivés en Cirne, ils élevèrent deux temples et demeurèrent 5 ans avec les colons qui les avaient précédés. Mais comme ils ravageaient et pillaient tous leurs voisins, les Tyrrhéniens et les Carthaginois mirent les uns et les autres en mer d'un commun accord 60 vaisseaux. Les Phocéens, ayant aussi équipé de leur côté pareil nombre de vaisseaux, allèrent à leur rencontre sur la mer de Sardaigne. Ils remportèrent une victoire cadméienne, mais elle leur coûta cher, car ils perdirent 40 vaisseaux, et les 20 autres ne purent servir dans la suite, les éperons ayant été faussés. Ils retournèrent à Alalie, et, prenant avec eux leurs femmes, leurs enfants, et tout ce qu'ils purent emporter du reste de leurs biens, ils abandonnèrent l'île de Cirne et firent voile vers Régium. Les Carthaginois et les Tyrrhéniens, ayant tiré au sort les Phocéens qui avaient été faits prisonniers sur les vaisseaux détruits, ceux-ci en eurent un beaucoup plus grand nombre. Les uns et les autres, les ayant menés à terre, les assommèrent à coups de pierre. Depuis ce temps-là, ni le bétail, ni les bêtes de charge, ni les hommes même, en un mot, rien de ce qui appartenait aux Agyléens ne pouvait traverser le champ où les Phocéens avaient été lapidés, sans avoir les membres disloqués, sans devenir perclus ou sans tomber dans une espèce d'apoplexie. Les Agyléens envoyèrent à Delphes pour expier leurs crimes. La pitié leur ordonna de faire aux Phocéens de magnifiques sacrifices funèbres, et d'instituer en leur honneur des jeux gymniques et des courses de chars. Les Agyléens observent encore maintenant ces cérémonies. Tel fut donc le sort de ces Phocéens. Ceux qui s'étaient réfugiés à Rigium en étant partis bâtirent dans les campagnes de Lotry la ville qu'on appelle aujourd'hui Yel. Ce fut par le conseil d'un habitant de Posidonia qui leur dit que la Pythie ne leur avait pas ordonné, par sa réponse, d'établir une colonie dans l'île de Cyrne, mais d'élever un monument au héros Cyrnus. Ce qui regarde le fossé en Ionie se passa de la sorte. Les Théiens se conduisirent à peu près comme les Phocéens. En effet, Arpage ne se fut pas plutôt rendu maître de leur mur par le moyen d'une terrasse qu'ils s'embarquèrent et passèrent en Thrace où ils bâtirent la ville d'Abdère. Timésias de Clazomène l'avait fondée auparavant, mais les Thraces l'ayant chassé, il n'en jouit pas. Les Théiens d'Abdère lui rendent maintenant des honneurs comme un héros. Ces peuples furent les seuls parmi les Ioniens qui aimèrent mieux abandonner leur patrie que de porter le joug. Il est vrai que le reste des Ioniens, si l'on excepte ceux de Milet, en vinrent aux mains avec Arpage, de même que ceux qui avaient quitté l'Ionie et qu'ils donnèrent des preuves de leur valeur en défendant chacun sa patrie. Mais, ayant été vaincus et étant tombés en la puissance de l'ennemi, ils furent contraints de rester dans le pays et de se soumettre aux vainqueurs. Quant aux Milésiens, ils avaient, comme je l'ai dit plus haut, prêté serment de fidélité à Cyrus et jouissaient d'une parfaite tranquillité. L'Ionie fut donc ainsi réduite en esclavage pour la seconde fois. Les Ioniens qui habitaient les îles, craignant un sort pareil à celui qu'Arpage avait fait éprouver à ceux du continent, se rendirent d'eux-mêmes à Cyrus. Quoique accablés de maux, les Ioniens ne s'en assemblaient pas moins au Panionium. Bia de Prienne leur donna, comme je l'ai appris, un conseil très avantageux qui les eût rendus les plus heureux de tous les Grecs s'ils eussent voulu le suivre. Il les exhorta à s'embarquer tous ensemble sur une même flotte, à se rendre en Sardaigne et à y fonder une seule ville pour tous les Ioniens. Il leur fit voir que, par ce moyen, ils sortiraient l'esclavage, qu'ils s'enrichiraient et qu'habitant la plus grande de toutes les îles, les autres tomberaient en leur puissance. Au lieu que, s'ils restaient en Ionie, ils ne voyaient pour eux aucune espérance de recouvrer leur liberté. Tel fut le conseil que donna Bias aux Ioniens après qu'ils eurent été réduits en esclavage. Mais, avant que leur pays eût été subjugué, Thalès de Milet, dont les ancêtres étaient originaires de Phénicie, leur en donna aussi un qui était excellent. Ce fut d'établir à Théos, au centre de l'Ionie, un conseil général pour toute la nation, sans préjudicier au gouvernement des autres villes qui n'en auraient pas moins suivi leurs usages particuliers que si elles eussent été autant de cantons différents. Arpage, ayant subjugué l'Ionie, marcha contre les Cariens, les Coniens et les Lyciens, avec un renfort de troupes que lui avaient fourni les Ioniens et les Éoliens. Les Cariens avaient passé des îles sur le continent. Ils avaient été anciennement sujets de Minos, on les appelait les Lèges. Ils habitaient alors les îles et ne payaient aucune sorte de tribut, autant que j'ai pu l'apprendre par les plus anciennes traditions. Mais ils fournissaient à Minos des hommes de mer toutes les fois qu'il en avait besoin. Pendant que ce prince, heureux à la guerre, étendait au loin ses conquêtes, les Cariens acquéraient de la célébrité et se distinguaient plus que tous les peuples connus jusqu'alors. On leur doit trois inventions dont les Grecs ont fait depuis usage. Ce sont en effet les Cariens qui, les premiers, ont enseigné à mettre des panaches sur les casques, qui ont orné de figure leurs boucliers et qui ont ajouté une anse de cuir à cette arme défensive. Car jusqu'alors, tous ceux qui avaient coutume de se servir du bouclier le gouvernaient par le moyen d'un baudrillon de cuir qui le tenait suspendu au cou et sur l'épaule gauche. Longtemps après, les Doriens et les Ioniens chassèrent les Cariens des îles. Et c'est ainsi que les Cariens passèrent sur le continent. Voilà ce que les Crétois racontent des Cariens. Mais ceux-ci pensent différemment sur leur origine. Ils se disent nés dans le continent même et croient qu'ils n'ont jamais porté d'autre nom que celui qu'ils ont présentement. Ils montrent aussi à Mylas un ancien temple de Jupiter carien où ils n'admettent que les Mysiens et les Lydiens à cause de l'affinité qu'ils ont avec ces peuples. Ils disent en effet que Lydus et Mysus étaient frères de Car. Et ce motif leur a fait admettre dans ce temple d'où sont exclus ceux de toute autre nation, quoiqu'ils parlent la même langue. Quant aux Coniens, il me semble qu'ils sont autochtones, quoiqu'ils se disent originaires de Crète. S'ils ont formé leur langue sur celle des Cariens ou les Cariens sur celle des Coniens, je ne puis en juger avec certitude. Ils ont cependant des coutumes bien différentes de celles des Cariens et du reste des hommes. Il est chez eux très honnête de s'assembler pour boire, hommes, femmes et enfants, suivant les liaisons que forment entre eux l'âge et l'amitié. Ils avaient des dieux étrangers, mais ayant changé de sentiment à leur égard, il fut résolu qu'on n'adresserait à l'avenir ses vœux qu'à ceux du pays. Toute la jeunesse conienne se revêtit donc de ses armes, et, frappant l'air de ses piques, elle les accompagna jusqu'aux frontières du Calindien en craignant qu'elle chassait les dieux étrangers. Les Lydiens sont originaires de Crète et remontent à la plus haute antiquité. Car dès les temps les plus reculés, cette île tout entière n'était occupée que par des barbares. Sarpédon et Minos, tous deux fils d'Europe, s'en disputèrent la souveraineté. Minos eut l'avantage et Sarpédon fut chassé avec tous ceux de son parti. Ceux-ci passèrent dans la Myliade, canton de l'Asie, car le pays qu'habitent aujourd'hui les Lyciens s'appelait autrefois Myliade, et les Myliens portaient alors le nom de Solyme. Tant que Sarpédon régna sur eux, on les appela Thermiles, nom qu'ils avaient apporté dans le pays et que leurs voisins leur donnent encore maintenant. Mélicus, fils de Pandion, ayant été aussi chassé d'Athènes par son frère Égée et s'étant réfugié chez les Thermiles, auprès de Sarpédon, ces peuples s'appelèrent avec le temps Lyciens, du nom de ce prince. Ils suivent en partie les lois de la Crète et en partie celles de Carie. Ils en ont cependant une qui leur est tout à fait particulière et qui ne s'accorde avec aucune de celles des autres hommes. Ils prennent en effet le nom de leur mère au lieu de celle de leur père. Si l'on demande à un Lycien de quelle famille il est, il fait la généalogie de sa mère et des aïeuls de sa mère. Si une femme du pays épouse un esclave, ses enfants sont réputés nobles. Si au contraire, un citoyen, celui même du rang le plus distingué, se marie à une étrangère ou prend une concubine, ses enfants sont exclus des honneurs. Les Cariens furent réduits en servitude par harpage, sans avoir rien fait de mémorable. Ils ne furent pas les seuls. Tous les Grecs qui habitent ce pays ne se distinguèrent pas davantage. On compte parmi eux les Cnidiens, colonie de la Cédémone. Leur pays, qu'on appelle Tripium, regarde la mer. La Bibassie commence à la péninsule, et toute la Cnidie, si l'on en excepte un petit espace, est environnée par la mer. Au nord, par le golfe Céramique, au midi, par la mer de Cime et de Rhodes. C'est ce petit espace qui n'a d'environ que 5 stades d'étendue que les Cnidiens, voulant faire de leur pays une île, entreprirent de creuser pendant qu'Arpage était occupé à la conquête de l'Ionie. Car tout leur territoire était en dedans de l'isthme et ne tenait au continent que par cette langue de terre qu'ils voulaient couper. Ils employèrent un grand nombre de travailleurs, mais les éclats de pierre les blessant en différents endroits, et principalement aux yeux d'une manière si extraordinaire qu'il paraissait bien qu'il y avait là quelque chose de divin, ils envoyèrent demander à Delphes quelle était la puissance qui s'opposait à leurs efforts. La Pythie, comme les Cliniens le disent eux-mêmes, leur répondit à ces termes en vers trimètre. Ne fortifiez pas l'isthme et ne le creusez pas. Jupiter aurait fait une île de votre pays si c'était sa volonté. Sur cette réponse de la Pythie, les Cnidiens cessèrent de creuser, et lorsqu'Arpage se présenta avec son armée, ils se rendirent sans combattre. Les Pédasiens habitent le milieu des terres au-dessus d'Halicarnasse. Toutes les fois que ces peuples et que leurs voisins sont menacés de quelque malheur, une longue barbe pousse à la prêtresse de Minerve. Ce prodige est arrivé 3 fois. Les Pédasiens furent les seuls peuples de Carie qui résistèrent longtemps à Arpage et qui lui causèrent beaucoup d'embarras en fortifiant la montagne de Lida. Mais enfin, ils furent subjugués. Les Lydiens allèrent tout devant d'Arpage dès qu'il parut avec son armée dans les plaines de Xanthus. Quoiqu'ils ne fussent qu'une poignée de monde en comparaison des ennemis, ils se battirent et firent des prodiges de valeur. Mais, ayant perdu la bataille et se voyant forcés de se renfermer dans leurs murs, ils portèrent dans la citadelle leurs richesses. Et ayant rassemblé leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves, ils y mirent le feu et la réduisirent en cendres avec tout ce qui était dedans. 7 ans après cette action réciproquement engagée par les serments les plus terribles, ils firent secrètement une sortie contre les Perses et périrent tous en combattant généreusement. Ainsi, la plupart des Lyciens d'aujourd'hui, qui se disent Xanthiens, sont étrangers, si l'on en excepte 80 familles qui, étant alors éloignées de leur patrie, échappèrent à la ruine commune. Ainsi fut prise la ville de Xanthos. Arpage s'empara de celle de Cône à peu près de la même manière, car les Coniens suivirent en grande partie l'exemple des Lyciens.